La République tchèque n'a pas participé à la 20e édition de la Coupe du Monde qui vient de s'achever au Brésil par le triomphe de l'équipe allemande sacrée pour la 4e fois de son histoire. Pourtant, la République tchèque a un riche passé footballistique. Par deux fois, la représentante tchécoslovaque en a en effet échoué en finale de la compétition. La première fois, c'était en 1934, lors de la deuxième Coupe du Monde de l'histoire, organisée et remportée par l'Italie fasciste de Mussolini. Professeur d'histoire à l'Université de Corse, spécialiste de l'Italie et du football, Didier Rey a accepté au micro de Pierre Maignan de revenir sur cette compétition dont l'issue a nourri beaucoup de regrets en Tchécoslovaquie.
Chapitre de l'histoire.
En 1934, la Tchécoslovaquie est proche d'obtenir une première étoile sur son maillot, une étoile qui aurait symbolisé sa victoire en Coupe du Monde. Mais jouer l'Italie dans l'Italie du Duce, c'est s'exposer à nombre de vents contraires. Didier Rey évoque ces vents contraires, mais revient tout d'abord sur l'organisation de ce mondial, une compétition qui au départ n'emballait pas franchement Benito Mussolini.
Il y a un lieu commun sur l'Italie fasciste et son football, c'est que le football aurait été très vite instrumentalisé par le parti, par le pouvoir, pour s'en servir évidemment comme moyen de contrôle des masses. En fait, c'est pas du tout vrai. Le fascisme est très réticent vis-à-vis du football pour deux raisons essentielles. D'abord parce que c'est un sport étranger, entre guillemets, anglais, qu'on le veuille ou non, porteur de certaines valeurs démocratiques. Et secondo, parce que c'est un sport de la classe ouvrière, donc assimilé aux communistes et par conséquent à l'ennemi. Jusqu'au début des années 30, l'instrumentalisation par le pouvoir est finalement très très faible. Il faudra l'action de fascistes en même temps sportifs, si j'ose dire, comme le président de la Fédération italienne de foot, la Federcalcio, qui vont réussir finalement à persuader Mussolini de l'importance du sport et du foot en premier lieu pour le contrôle des masses et pour le prestige du pays et du parti. Donc si vous voulez, la Coupe du Monde 1934 n'est pas à l'origine véritablement soutenu par Mussolini. Il est même très très dubitatif.
Pourtant, dès 1930, l'Italie avait tenté d'organiser la première édition de la Coupe du Monde. Comment s'est passée la désignation pour la seconde Coupe du Monde?
Oui, en fait, il n'y avait pas vraiment de candidat. L'Italie avait bien essayé, mais bon, ça faisait partie, je dirais, un peu de l'opération de prestige, mais l'État ne s'était pas véritablement investi. En 1934, c'est pareil, Mussolini ne s'investit pas au début. Il est même partisan presque d'abandonner cette Coupe du Monde. Elle se désigne normalement. Il n'y a pas vraiment de candidat pour succéder à l'Uruguay, donc l'Italie, qui a les moyens techniques d'assurer ce rôle, finalement, l'emporte assez aisément. C'est ensuite sur place qu'au départ, comme je vous disais précédemment, ça va poser problème parce que Mussolini vraiment se fait tirer l'oreille. Mais à partir du moment où le Duce a compris tout le parti qu'il pouvait tirer de cette manifestation, alors à partir de ce moment-là, on peut parler, comme l'a dit d'ailleurs Rimé, on peut parler vraiment de la coupe du Duce. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, véritablement, l'Italie et le régime vont investir totalement la compétition.
Puisque vous parliez de Jules Rimet qui avait dit que justement il sentait que Mussolini était en réalité le véritable président de la FIFA à ce moment-là.
Voilà.
Alors comment ça se concrétise?
Mais ça va se concrétiser d'abord dans les stades. C'est-à-dire que dans les stades, ce sont des ovations permanentes à Mussolini, car Mussolini est là, il assiste notamment pour la finale. Et en plus, Mussolini fait même fabriquer par un des artistes italiens les plus renommés de l'époque, une coupe qui sera la Coppa del Duce, la coupe du Duce, qui sera remise au vainqueur à la fin de la compétition, qui finalement prend plus d'importance pratiquement que la Coupe du Monde en elle-même.
Alors du côté sportif aussi, l'Italie met toutes ses chances de son côté puisque il me semble qu'ils font naturaliser des joueurs d'origine argentine. Vous pouvez nous en parler?
Oui, ce sont ce qu'on appelait les oriundi, c'est-à-dire ce sont effectivement des joueurs de grande qualité qui ont parfois d'ailleurs certains disputé la finale précédente avec l'Argentine. Ce sont des descendants, parfois très lointains, d'immigrés italiens que l'on va naturaliser pour effectivement l'emporter. N'oublions pas qu'à l'époque les naturalisations sont finalement assez simples et qu'il n'est pas à la différence d'aujourd'hui, il n'est pas interdit de porter plusieurs maillots. On le reverra plus tard avec Puskás, lorsqu'il aura quitté la Hongrie après la révolution de 56. et qui jouera pour l'équipe nationale d'Espagne.
Alors comment ça s'exprime, ça s'illustre tout cela sur le terrain? Comment se déroule la compétition? On parle de matchs très violents.
Oui, ce sont des matchs très violents. D'ailleurs, contre l'Espagne, et la finale est elle-même une finale brutale. Bon, en même temps, ne l'oublions pas, le football de l'époque est brutal. En 31, si je me souviens bien, le gardien du Celtic est tué lors d'un match contre les Rangers, lors de Old Firm. Il est tué par un attaquant sur une sortie face à un attaquant des Rangers. Ce n'est pas proprement parlé quelque chose d'exceptionnel. On meurt sur les terrains de football. Bien évidemment pas de manière excessive, mais on meurt sur le terrain de football dans les années 20, dans les années 30. Ceci dit, les matchs apparaissent véritablement comme une bataille. Hein, et ça sera encore plus vrai 4 ans plus tard, où Mussolini enverra clairement un message aux joueurs italiens leur disant qu'ils jouent une bataille pour l'Italie, hein, qu'ils livrent une vraie bataille pour l'Italie. En plus, n'oublions pas deux choses, même si on est en 34, on n'est pas en 38, évidemment, le contexte international est différent. Néanmoins, les matchs contre l'Espagne, même si ce n'est pas encore l'Espagne du Frente Popular, c'est l'Espagne républicaine et démocratique. Et la Tchécoslovaquie, c'est quand même un pays considéré comme une démocratie, peut-être la seule de l'Europe centrale de l'époque. Donc jouer contre les démocraties et vaincre les démocraties, c'est pas non plus anodin. Même si, attention, je le répète bien, 1934 n'est pas 1938.
Le journaliste sportif tchèque Josef Laufer, le premier européen à avoir commenté en direct un match de football en 1926, a de quoi se réjouir. Après 2 semaines de compétition, son équipe est en finale après avoir disposé successivement de la Roumanie, de la Suisse, puis de l'Allemagne nazie. Il faut dire que la sélection tchécoslovaque pratique alors un très bon football, ainsi que le souligne Didier Rey, avant de revenir sur cette fameuse finale du 10 juin 1934.
Slovaquie fait partie d'un des héritiers de la double monarchie, un État successeur, donc pas seulement en termes, je dirais, des géopolitiques, mais même en termes de football. La Tchécoslovaquie, la Hongrie, l'Autriche sont trois des puissances footballistiques qui comptent, puisque l'Italie bat la Tchécoslovaquie en 34, l'Italie bat la Hongrie en 38. Donc nous avons là, effectivement, un football qui compte. D'ailleurs, ce football tchèque continuera, mais bien sûr, avec la parenthèse de la guerre, il y aura des transformations, on dit bien, on retrouvera la Tchécoslovaquie dans des conditions différentes, c'est vrai, mais en 62, encore en finale, contre le Brésil. Donc, oui, c'est un football qui compte. N'oublions pas qu'avant la guerre, d'ailleurs, les équipes qui jouaient dans ce qu'on appelait la Bohème, donc les équipes de Bohème, participaient soit au championnat d'Autriche, soit d'ailleurs, pour certaines d'entre elles, au championnat d'Allemagne. Car, encore une fois, comme on l'a dit précédemment, les frontières étaient beaucoup moins étanches de ce côté-là. Et des équipes... Alors, c'est vrai que c'était des équipes de Bohème composées essentiellement d'Allemands de Bohème, donc...
Des Sudètes, sans doute.
Voilà, ce qu'on appellera plus tard les Sudètes. Mais pas seulement, il y avait aussi des équipes allemandes de Prague qui participaient avant 14 aux compétitions allemandes. Donc oui, là, il y a un football qui est ancien, qui est de qualité. Et d'ailleurs, pendant tout l'entre-deux-guerres, des équipes tchèques voyagent aux quatre coins, finalement, de l'Europe en démonstration. Je pense notamment je suis désolé pour la prononciation, c'est Ziskov, Z-I-S-K-O-W, qui existe toujours. Hein, je crois qu'il joue toujours le championnat.
Ziskov, effectivement, oui. Aujourd'hui, c'est une des quatre équipes de Prague qui est en division 1.
Voilà. Qui fait une tournée, par exemple, qui fait une tournée en France, qui fait une tournée en Algérie, et qui va même disputer une rencontre ici à Bastia, en Corse. Donc ce sont des équipes, finalement, que l'on s'arrache, qui voyagent, qui tournent, qui sont pour certaines d'entre elles déjà professionnelles. Donc oui, c'est un football de qualité. C'est un héritier de ce football austro-hongrois, finalement.
Donc Tchécoslovaquie-Italie, c'est un match qui faisait plusieurs promesses aux amateurs de ballon rond et qui, justement, a été rempli de suspense. Vous pouvez nous raconter cette finale?
Oui. La victoire n'est obtenue qu'après prolongation. Si je me souviens bien, ce sont les Tchèques qui mènent une partie de la rencontre, les Italiens n'égalisant finalement qu'in extremis et s'imposant au cours des prolongations avec un jeu effectivement très brutal et surtout un arbitre qui ferme les yeux sur des actions très 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 litigieuses de la part des Italiens.
Antonín Puč, meilleur buteur de l'histoire de la sélection tchécoslovaque, libère en effet les siens à la 76e minute. Une libération de courte durée puisque 5 minutes plus tard, Raimundo Orsi, attaquant d'origine argentine, remêle les pendules à l'heure pour des Italiens qui arrachent la victoire en prolongation grâce à un but d'Angelo Chiavio. Pour beaucoup, il y a un 12e homme italien sur la pelouse, pourtant suédois, monsieur l'arbitre Ivan Eklind, accusé de toutes les compromissions avec Mussolini. Didier Rey commente.
Qu'il y ait eu influence occulte du pouvoir, bon, c'est un secret des polichinelles. Mais encore une fois, malheureusement, ce sont des choses que l'on retrouvera un peu dans toute la compétition, dans toutes les Coupes du Monde dans les années suivantes. Donc, si vous voulez, là aussi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, même si, évidemment, l'ensemble l'organisation, les pressions sur les arbitres, la violence, les spectateurs avec un soutien là aussi très engagé, très, très très violent, y compris dans les manifestations, c'est certain que ça crée un contexte très très difficile pour tous les adversaires de l'Italie.
Est-ce que ce qu'on retient de cette compétition, c'est finalement ces matchs à arbitrage un peu douteux? Qu'est-ce qu'on va vraiment retenir de cette compétition?
Bon, quand même une bonne équipe d'Italie, hein, parce que malgré les coups de pouce de l'arbitre, l'équipe c'est une belle équipe. Hein. Et puis bon, il y a des bons joueurs. On pensera à Meazza, hein, Giuseppe Meazza, qui est quand même qui est symptomatique aussi. C'est un enfant des quartiers populaires, même très populaire. Donc il y a beaucoup de symboles là derrière. Arrivé là grâce à sa valeur, le fascisme étant donc celui qui permet aux gens valeureux, hein, et méritants de l'accession à la gloire. Mais on va retenir surtout, alors qu'on l'a vu au départ, c'est pas du tout le cas, la mainmise totale du régime sur la Coupe du Monde. Voilà, c'est ça. La Coupe du Monde 34, c'est la Coupe du Monde de Mussolini. Voilà, c'est ce qui finalement ressort lorsqu'on lit des ouvrages non spécialisés ou des ouvrages, je dirais entre guillemets, grand public. C'est ce qui ressort. Voilà, et ça. Donner, finalement, ça a déformé cette image où on a pensé que véritablement Mussolini avait été dès le départ très intéressé par cette compétition. Non, non.